Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Depuis un certain temps, j'avais à cœur de partager avec l'Église un sujet qui caractérise notre condition d'homme. Et ce sujet, c'est quelque chose que vous connaissez bien, plus ou moins, en fonction des tempéraments que nous pouvons avoir les uns et les autres. Mais nous allons expliciter la chose avec différents textes dans la Bible et on va se laisser conduire dans cette réflexion parce que je crois que Dieu a un grand souci de nous amener à la liberté chrétienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être certains diront, mais nous sommes déjà libres puisque nous sommes sauvés, c'est vrai. Nous avons cette liberté de conscience, c'est vrai. Et puis bien d'autres choses qui sont attachées à notre profession de foi. Mais le sujet que nous allons aborder, eh bien, peut-être va au-delà de la généralité de notre engagement chrétien. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et nous allons le découvrir ensemble, d'abord à travers un premier texte. Nous allons ouvrir le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Et au verset 7, si vous voulez bien suivre avec moi, c'est un verset, simplement une phrase, et qui nous met tout à fait en phase avec notre réflexion ce matin. Alors, Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, vraisemblablement, c'est le roi Salomon qui en est l'auteur, Dieu l'inspirateur. Et il écrit ceci, Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Peut-être connaissez-vous cette pensée. Alors, Ecclésiaste 7, 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Je relis. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Avant d'ouvrir une deuxième page, j'aimerais simplement rappeler ce que vous connaissez tous, mais que nous avons du mal vraiment à intégrer, c'est que le Seigneur est venu pour nous sauver parce que nous étions perdus. Alors, c'est un lieu commun, c'est vrai, mais nous vivons dans un monde qui n'a rien d'idéal. Et nous-mêmes, tout en étant chrétiens, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes des êtres perfectibles, c'est-à-dire que avec la foi, l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous allons et nous tendons vers cette perfection que nous réaliserons une fois que nous serons simplement de l'autre côté. N'allons pas nous imaginer que ici-bas, eh bien, nous serons vraiment et nous aurons atteint, comme Paul le dit dans les Philippiens, nous avons atteint la perfection. Mais je cours, dit Paul, je tends, je fais en sorte d'aller dans cette direction. Et pour expliquer ce verset de cette justice à l'excès, je vous invite à ouvrir un deuxième texte maintenant. Chapitre 10 de l'Évangile de Luc. Et là, vous connaissez certainement davantage une histoire, une rencontre, une observation que Jésus nous laisse. Alors, Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin. Je voudrais lever une ambiguïté. N'allons pas penser que Marie, par son attitude, est une bonne croyante, une bonne chrétienne, et que Marthe en serait une mauvaise. Je dis cela parce que vous allez suivre un petit peu le cours des choses. Je crois que le Seigneur s'intéresse autant à Marie, qui est au pied de Jésus pour entendre paisiblement sa parole, que Marthe, affairée à bousculer ses casseroles et à ranimer le feu de la cuisinière. D'accord ? Il n'y a pas ni de bon ni de mauvais en tout cela. Alors je reprends. Les paroles que Jésus laisse. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce que Jésus voulait dire à Marthe, c'est que elle était occupée à une multitude d'occupations ou de préoccupations, et on pourrait peut-être traduire aussi ce beaucoup par peu de choses qui sont secondaires. Comprenez ? C'est une question de graduation. Et nous allons passer brièvement à l'étude du caractère ou l'étude de caractère du chrétien ou de la chrétienne dans ce qu'il y a d'excessif et qui peut devenir une tyrannie de la pensée et de la conscience. Dans ma position pastorale, je suis à même de reconnaître ou d'observer que parmi les enfants de Dieu, il y a parfois beaucoup de souffrances, beaucoup d'exigences et de contraintes. Et quelquefois, eh bien, on sent nos frères et nos sœurs malheureux ou malheureuses. Ce qui n'est pas forcément le but, naturellement, puisque on a bien posé tout à l'heure la pensée de la liberté pour la liberté et pour un plus grand affranchissement. Je voudrais ce matin mettre un mot devant vous. C'est le carcan, et vous avez une petite idée de ce que peut être un carcan, du perfectionnisme. Alors, c'est peut-être une appellation très philosophique, mais je vais être simple. Ce carcan du perfectionnisme entraîne, malheureusement, à l'auto-persécution et se rencontre à divers niveaux. Dans le monde séculier, c'est-à-dire le monde, voilà, autour de nous, le monde tel qu'on le connaît, il y a, chez certains individus, ce souci du perfectionnisme. On le rencontre également dans le domaine religieux, peut-être particulièrement marqué par une conscience qui a été, éveillée. On le rencontre également dans le domaine spirituel, oui, c'est-à-dire notre état de chrétien, dans le domaine évangélique, parce que nous ne faisons pas exception, nous sommes des hommes comme les autres. Il y a en matière de santé psychologique ce que les hommes ont appelé des TOC, T-O-C. Vous voyez ce que je veux dire ? Des troubles obsessionnels compulsifs. Alors vous allez me dire, mais où s'en va Alain ? Où je vous emmène ? Ben, je vous emmène nulle part. Mais je voudrais vous emmener et vous conduire en tous les cas à une réflexion dans la parole de Dieu. Parce que si c'est quelque chose dont on parle couramment dans le monde, de ces fameux TOC, si vous mettez le tic, vous avez une horloge. Mais il faut pouvoir quelquefois arrêter le mécanisme parce qu'on ne vit pas forcément heureux. Et il y a naturellement des excès dans tout cela, et je voudrais quand même vous dire que le Seigneur est venu pour nous équilibrer et nous guérir. Parce qu'il a compassion de ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas se débarrasser dans la pensée ou dans la conscience. Et ça rend profondément malade. Je reviens à Marthe. Marthe est une jeune femme très affairée et consciencieuse. On ne dira pas le contraire. Mais elle a le défaut de ses qualités. Et parfois, en tant que chrétien, nous avons le défaut de nos qualités. Et ça mérite peut-être réflexion. Parce que elle ne sait pas s'arrêter et pourtant ses mobiles, finalement, et ses intentions sont les meilleurs du monde. Vous suivez toujours, hein? Parce que on peut avoir finalement, eh bien, de bonnes dispositions dans notre cœur, et particulièrement marquées dans un souci de bien faire, dans un souci de faire ce qui, bien, est pour nous le meilleur. C'est une femme perçue dans notre lecture, c'est vrai, comme Jésus en fait la démonstration dans ce reproche affectueux de Jésus. Je voudrais quand même souligner l'adjectif. Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, ou peu de choses qui ont d'importance. Et vous remarquerez que c'est affectueux ce que Jésus dit. C'est pas pour la rabrouer et lui dire, écoute, ma pauvre fille, pour une fois que je suis chez toi, tu pourrais quand même m'écouter. On mangera plus tard. C'est pas la peine, voilà. Non, c'est affectueux. Et je tiens quand même à le dire parce que si nous souffrons de certaines choses à l'intérieur de nous-mêmes, je crois que Dieu a toujours un regard d'affection sur nous. Il n'est pas venu pour nous condamner, d'accord? Et ça, c'est important de le rappeler parce que on passe très vite, finalement, spontanément, dès qu'on a le sentiment de ne pas avoir fait tout à fait ce qu'il fallait, à la condamnation. Dieu me condamne, Dieu me juge. Alors attendez. Jésus lui dira dans ce reproche affectueux qu'elle s'inquiète avec et dans le souci de tout gérer, de tout maîtriser. Alors, je parle autant aux messieurs qu'aux dames. Hein. Comprenez? Je ne fais pas de distinction. Mais il y a des personnalités qu'ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien que dans la mesure où ils ont la haute main sur toute chose. D'accord? C'est comme ça. Et il y a l'inquiétude, mais elle s'agite. Et elle s'agite parce que elle est dans une suractivité psychologique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle-même, finalement, si ses mains et ses pieds courent un peu de tous les côtés, c'est qu'à l'intérieur, elle a quelque chose que Marie possède, qu'elle ne connaît pas encore, c'est le repos. Le repos dans la foi. Le repos en Jésus-Christ. Et parfois, elle s'entête, parce que quand on lui dit « arrête », eh bien, elle active encore davantage. Comment faire? Comment faire? Et assurément, elle possède une personnalité décidée et entreprenante. Et permettez-moi de le dire, ça c'est ma pensée personnelle, mais avec elle, rien ne traîne. Hein. Il n'y a pas de défaut dans la maison. Hein. Rien ne traîne, c'est l'ordre et l'efficacité assurée. Si vous avez besoin de quelqu'un, d'une domestique ou d'un domestique, choisissez une Marthe. Et vous comprendrez, c'est comme ça. Voilà. Marthe veut dire en araméen maîtresse, ou si vous voulez, dame, ou dame maîtresse. Donc, c'est d'elle qu'il est parlé en premier temps dans notre texte. Hein. Il nous est dit que Jésus s'est rendu chez Marthe. Après, il est question, tout simplement, eh bien, de Marie. Voilà. Donc, c'est une famille. Son tempérament à Marthe fait que sa vie est remplie, et je dirais même plus, encombrée de beaucoup de choses. Je crois que nous avons besoin d'apprendre dans la vie chrétienne à faire du tri, et à faire une sélection des choses qui sont importantes, primordiales, qui ont une certaine valeur, et puis les choses qui nous encombrent. Vous savez, nous vivons dans un monde d'encombrement, hein. Il n'y a pas que sur les routes, hein. Mais il y a aussi dans le cœur des hommes, dans les âmes encombrées, dans nos pensées, l'encombrement. Il y a des bouchons partout. Hein. Et c'est ce que nous rencontrons. Jésus lui dit, mais ma pauvre Marthe, mais tu es encombré de beaucoup de choses. Et il y a des priorités dans la vie, naturellement, il y a des priorités. Il faut bien manger, il faut bien préparer la cuisine, il faut bien faire le nettoyage de ceci et cela, parce que c'est nécessaire, et ce sont des bonnes choses. Mais cette parole nous revient. Ne sois pas juste à l'excès. Une autre version nous dit, ne sois pas juste outre mesure, de peur que tu ne te détruises, de peur que tu te fasses du mal à toi-même. La justice, c'est Jésus. Nous, nous sommes justifiés par Jésus. Et je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, vous connaissez, hein? Vous connaissez bien ça. Alors, que signifie « juste à l'excès » ? Vous avez peut-être une petite idée. On va essayer d'expliquer. Juste à l'excès, selon ce qui nous est enseigné dans la parole, c'est un état d'esprit et un fond naturel appelé, et je vais dire le mot, et ne soyez pas choqués, appelé le légalisme. Et le légalisme n'est pas seulement une exclusivité chrétienne. Il y a un légalisme à l'extérieur. Je ne dénigre personne, mais on a souvent dit, on a souvent pensé que quelquefois, il y avait un esprit de fonctionnaire, vous comprenez, hein? J'espère qu'il n'y a personne de fonctionnaire, parce qu'autrement je vais me faire lyncher, hein? Mais laissez-moi vivre encore quelques heures, voilà. Mais toujours est-il que, voilà, c'est, on le sait, hein, dans certaines administrations, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, voilà, vous êtes des administrés, et puis voilà, tout simplement. Donc, je ne vise personne, c'est un état, tout simplement. Donc, ça existe pas seulement dans le domaine chrétien, mais ça existe aussi, le légalisme, il existe aussi à l'extérieur, dont l'expression se traduit par des règles de vie, exigences, qui poussent à tout faire à la perfection, pensons-nous à la perfection. Croyons-nous à la perfection. Alors, les dangers et les avertissements de la parole de Dieu, justement, par rapport à cet état d'esprit propre à l'homme que l'on appelle le légalisme ou le perfectionnisme. Dans Éphésiens, figurez-vous que l'apôtre Paul, qui était un ancien pharisien, un légalisme hors norme, eh bien, nous en parle. Et figurez-vous qu'au chapitre 2, il nous dit ceci, parce que c'est antinomique, ça se chasse l'un et l'autre, ça s'exclut l'un et l'autre. Vous savez comment il commence? Et il dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ça, c'est une parole sublime de l'Écriture. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, en opposition à cet autre moyen de la loi. Cela ne vient pas de vous. Alors, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, c'est un présent qu'il nous faut recevoir. Ce n'est point par les œuvres. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie en disant « j'y suis arrivé quand même, donc je suis plus près de Dieu, je suis plus sanctifié, je suis plus saint, je suis meilleur que les autres, figurez-vous. » Ça, ce sont les avertissements. Alors, les dangers. La parole de Dieu continue. Elle nous parle d'une mentalité qui va à contresens de l'esprit de l'Évangile, par son inutilité notoire au regard de Dieu. Dans le livre des Hébreux, on va prendre quelques versets, on va prendre le temps. Au chapitre 7 et au verset 18, figurez-vous qu'il nous est parlé de la loi d'abord. Comme ayant été abolie, comme étant surannée, obsolète, parce qu'aujourd'hui nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des juifs dans le judaïsme légaliste. Nous sommes des fils et des filles de la grâce. Et il dira ceci, Hébreux chapitre 7 et au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance extérieure. Il voulait parler de la loi de Moïse. Elle subsiste, elle est juste, elle est sainte, elle est pure, mais il faut la prendre maintenant dans l'esprit, non pas dans la lettre, parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, il dira, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que la loi ne vous amènera jamais à la, à la perfection. Et puis, il y a ce danger également. À cause de l'excès en tout, et l'excès en tout, frères et sœurs, est un terrain de prédilection, et je mets ça entre guillemets, pour les puissances. La puissance de la volonté humaine, la puissance de la personnalité, du caractère, du tempérament implacable en disant « je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout ». Et puis les puissances, ça peut être aussi tout ce monde invisible, ennemi de Dieu et ennemi de l'homme, qui se sert de tout cela pour manipuler et pour finalement nous conduire dans une vaste illusion que nous n'y arriverons, on y arrivera quand même sans Dieu, ou pour Dieu, mais sans lui. Alors que le mot a été donné à la croix du calvaire, hein, tout est accompli, nous dit Jésus. Tout a été accompli. Il nous suffit que tout simplement de croire. Et c'est l'apôtre Pierre qui va surenchérir la pensée et qui nous dit ceci, et vous connaissez, soyez sobres, soyez modérés, gardez une ligne médiane, n'allez pas de droite et de gauche, parce que ce sont les excès, tant dans un légalisme pur et dur, qui ressemble à la loi des Mèdes et des Perses, si vous avez entendu parler, c'était terrible, ou alors dans un libéralisme complètement confondu, dilué, voilà. Il y a les deux, hein. Et vous savez très bien ce que ça veut dire, parce qu'on le voit aussi dans nos communautés, dans nos églises, dans un sens ou dans un autre. Et comme je vous ai parlé des puissances, Pierre dira, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais vous avez par la foi la puissance et la capacité, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et nous sommes soumis à cette pression en permanence dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas dans un monde, eh bien, parfait, idéal, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, et nous ne sommes pas, eh bien, des gens qui ont atteint la perfection. Je vais peut-être vous décevoir ce matin. Hein. Vous aviez pensé que vous aviez déjà la couronne de gloire sur la tête? Vous m'en voudrez pas de vous dire tout ça. Hein. Alors, on va aller encore un peu plus loin. Parce que, pour comprendre le sujet, il faut lui mettre des idées. Il faut lui donner des idées, il faut lui donner des exemples. Alors, à ce moment-là, on comprend mieux en disant, ah, c'est ça, le perfectionnisme. C'est ça, le légalisme. Parce que dans tout cela, si nous n'y prenons pas garde, le résultat à tout cela, c'est une forme d'esclavage et d'asservissement de la conscience au lieu de la liberté que Jésus nous a acquise. Et c'est vrai que là, on fait le chemin contraire. Et malheureusement, pendant des siècles, voire des décennies, dans les communautés chrétiennes, dans nos églises également, je dois le dire, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater. Mais je m'aperçois que, quelquefois, eh bien, il y a une absence de liberté. Et les chrétiens qui devraient être le sel de la terre et la lumière du monde avec éclatant et rayonnant de joie et de bonheur, quelquefois on voit le contraire. Et ça c'est quand même une anomalie qui laisse perplexe les conducteurs spirituels. On se dit mais pourquoi ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi cette personne ? Pourquoi ce frère ou cette sœur eh bien, est si triste ? Alors bien sûr il y a toujours des situations du tout à chacun où nous avons des problèmes familiaux, des problèmes, des soucis d'une manière ou d'une autre et qui quelquefois nous attristent. Ça c'est vrai, j'en tiens compte. Mais nous sommes appelés quand même à être libres et à être heureux, heureux d'être libres. Avec cette auto-culpabilité permanente qui nous prive du meilleur, qui nous prive de la vie, tout simplement. Alors, puisque je vous parlais d'exemples, nous allons examiner les divers visages du perfectionnisme. Alors, ça sera d'une manière générale. Hein. Je ne parle pas du perfectionnisme chrétien, voilà, mais d'une manière jeune. Pour nous dire que d'abord c'est un mal subtil qui doit être dit sur des mots. Et le mot que j'ai prononcé c'est un carcan. C'est une forme où on tourne en rond et on n'arrive pas à s'en sortir, on se dit mais Seigneur comment je vais pouvoir vivre et respirer et prendre un petit peu d'oxygène puisque toute la parole nous propose finalement cet oxygène du ciel. Je ne vais pas m'étendre sur la liste, mais ça va vous laisser réfléchir un petit peu. Il y a ce qu'on appelle le perfectionnisme de l'hygiène et de la propreté. Il y a le perfectionnisme alimentaire, Et vous savez combien de religions ont imposé un régime alimentaire aux hommes? Tu ne mangeras pas de ceci, tu ne mangeras pas de cela, etc., etc. Et il n'y a pas que le christianisme, hein, dans bien des religions. Il y a le perfectionnisme de l'insupport de l'imparfait. C'est pas de la conjugaison, hein. Vous connaissez, hein. Je ne supporte pas quand c'est pas parfait. Ouh, c'est terrible. Parce que ça m'amène à tout juger. Il y a le perfectionnisme du beau. On appelle ça de l'hédonisme, quand ça nous concerne personnellement. De l'amour idéalisé, qui amène les gens à rêver, mais qui ne sont plus du tout dans notre monde. Et quand ils sont déçus, ils sont cassés. Ils sont morts. Parce qu'ils ont mis tellement les choses. Parce que c'était comme ça, du beau. Les civilisations et les sociétés grecques et tout cela, eh bien, on était très imprégnés de leur culture. Et ils nous ont laissé ce, mais il y a du beau et du pas beau, il y a du laid et tout ce que vous voulez dans ce monde. Il y a le perfectionnisme de la justice et de la vérité absolue, ce qui a donné l'intégrisme. Or moi, ce que je crois et ce que je pense, tous les autres sont dans l'erreur, hein. Voilà. Il y a également le perfectionnisme de la race supérieure, qui a donné le racisme. Et qui a donné quelquefois dans les milieux religieux, de dire, vous savez, notre communauté, c'est la seule, c'est la meilleure, nous sommes dans la vérité. Il n'y a que nous, hein. Il y a le perfectionnisme du conformisme et de la mode. Et là, on fait faire aux gens tout ce que l'on veut, hein. Parce que c'est le syndrome du complexe de ne pas être comme les autres. Alors, si ça change de couleur, on va changer de couleur. Si ça change de forme ou de ceci et cela, ben on veut pas rester vraiment isolé. Alors on fait comme tout le monde, sans tellement penser que bien on ressemble un petit peu au mouton de Panurge. Il y a le perfectionnisme du ritualisme et des traditions, parce que ça ne paraît pas dans notre 21e siècle. Mais comment, combien de gens sont attachés aux traditions? Parce que nos pères, nos aïeux ont fait ceci. Surtout, il ne faut pas déroger à la règle. C'est pas possible, on va se perdre. Il y a le perfectionnisme du passé idéalisé. Ah, c'était le bon temps, hein, quand j'avais 20 ans. Le passé idéalisé. Et on dénigre le présent et on n'a aucune vision pour l'avenir. Rappelons-le, on l'a dit tout à l'heure, à cause de son impuissance et de son inutilité, la loi n'a rien amené à la perfection. Que l'on soit chrétien ou non, faisons attention parce que c'est un danger qui menace l'Église, qui a déjà fait son œuvre dans l'Église à travers tous les temps, et qui empêche l'Église d'évoluer, qui empêche l'Église de respirer, qui empêche l'Église de témoigner et de faire son œuvre pour porter bien haut et vaillamment et courageusement et joyeusement le message de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre notre réflexion. Ça va, vous suivez? Bien. Il y a, vous pouvez intervertir les deux mots, hein. Je veux utiliser maintenant le mot légalisme. Le légalisme de la pauvreté, c'est un dénuement volontaire en disant, si j'abandonne tout, si je me promène en haillons, je serai certainement un meilleur chrétien. Ben, vous savez, permettez-vous de vous acheter quand même une belle robe ou un beau costume, hein. Il y a le légalisme de l'abstinence, homme et femme, qui a donné cette chose terrible, qui a persécuté des consciences et qui persécute encore, et qui amène à des péchés abominables, le célibat qui est prôné. Parce que tu sers Dieu, tu ne peux pas te marier. C'est du légalisme. Ce sont des règles et des commandements d'hommes. Vous le trouvez dans la Bible, ça? Il y a le légalisme de l'autorité au verdict absolu chez les gourous. Quand il a dit, quand il a pensé, tout le monde se tait et tout le monde suit, hein. Il y a le légalisme des tendances de libération trompeuse sous la forme de nouvelles morales et d'une nouvelle liberté. C'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire le légalisme du bonheur au plan social et économique. Tout simplement. C'est ce que tend notre société aujourd'hui, hein. Et si vous êtes riche, ah, c'est formidable, parce que vous avez réussi. Mais si vous êtes pauvre, ben vous êtes un malheureux. vous avez raté votre vie. Alors, grattez, hein. Achetez du loto, vous allez voir, peut-être que ça va marcher pour vous. Mais pendant que vous gagnez pas, il y en a 10 millions qui vont pas gagner pour qu'un, hein, ils partent aux Caraïbes, au soleil et tout ça. Voilà. C'est l'évangile de la prospérité dont on parle tant en ce moment. Et je m'inscris en faux. L'évangile n'est pas un message à l'eau de rose. C'est un message de responsabilité, de bonheur et de responsabilité, de devoir et de grande bénédiction aussi, mais de devoir, faut pas l'oublier. Alors on arrête avec l'évangile de la prospérité. Parce qu'il y a un Dieu. Mais c'est un autre Dieu que celui que nous adorons. Il s'appelle Mammon, argent. Vous comprenez? Et ça rend les gens malades. Si je ne suis pas riche, si je ne suis pas ceci, si je n'ai pas ma voiture, ma, je sais pas, vous mettrez les marques que vous voulez, hein. Une belle de chevaux, hein. C'est pas mal, hein. Alors, le légalisme de la liberté sexuelle. Eh oui, autant il y avait le légalisme de l'abstinence, maintenant il y a le légalisme contraire. Droit à l'amour libre, etc. Qui a donné une société immorale avant de devenir, non, amorale avant de devenir immorale. Je mets les choses. J'ajoute une remarque. Dans tous les cas, au pôle extrême, c'est-à-dire l'un ou l'autre, il y a toujours une recherche inconsciente, mais désespérée du paradis perdu. Eh oui, on en est sorti. Et c'est pas Dieu qui nous en a fait sortir. On est sorti tout seul. Cette aspiration que les hommes, et on l'a vu à travers, si vous intéressez à la littérature, que de romans, que de livres ont été écrits, à travers la musique, à travers le beau, à travers les arts, à travers toutes sortes de choses, l'homme, l'amour idéal, recherche où se trouve la porte de ce paradis, du jardin d'Éden, on voudrait bien y retourner, où dans ce monde, la perfection n'existe pas. C'est pour ça qu'avec l'âme humaine, on a déployé une énergie, une capacité extraordinaire. C'est étonnant ce que l'homme est capable de faire pour s'élever, pour tenter de s'élever. Or, le Seigneur nous a pas demandé de fonctionner avec notre âme, il nous a demandé de fonctionner par l'esprit. Et ça, il faut s'en souvenir. Le religieux, c'est l'âme. La vie spirituelle, c'est la dimension de Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. On remet les choses en place. L'âme est une belle chose, si elle est reprise en sous-main par le Saint-Esprit de Dieu. Et là, il y a des belles choses. Il y a des œuvres magnifiques qui ont été faites dans le contexte du christianisme évangélique, à travers des écritures, à travers des messages par les cantiques et tout ça. Il y a une élévation formidable qui adore et qui entraîne à l'adoration de Dieu. Mais si l'âme reste, eh bien, dans sa dimension animale, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire l'homme, alors à ce moment-là, eh bien, ça va pas en haut, ça va en bas. On pourrait dire c'est beau, c'est magnifique. Et on est dans une société d'émotions où on fait vibrer les gens. C'est l'émotionnel. C'est la touche émotionnelle. Et les gens disent, mais c'est merveilleux, je m'approche de Dieu, mais ils ne s'approchent pas de Dieu, ils s'approchent d'eux-mêmes. Ou des autres, mais pas de Dieu. Alors les hommes tentent de recréer un monde qui oscille entre, comment dire, entre deux philosophies. Laissons la philosophie aux hommes. Ce que les Grecs nous ont enseigné et nous ont légué, le stoïcisme, c'est-à-dire la rigidité et la rigueur, pour devenir meilleur, ou alors à ce moment-là, l'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir, entre les deux. Et il faut tenir la ligne. Et c'est ça le plus difficile. Vous avez remarqué la perfection d'équilibre de Jésus, qu'il marche toujours au milieu de la route. Et si nous avons un modèle, c'est pas un homme, le meilleur soit-il, c'est Jésus. Jésus nous conduira dans l'équilibre de la vie. Et c'est comme ça que nous trouverons, que nous serons heureux. Celui qui est là, perfectionnisme, va souffrir en disant « mais je regarde chez les autres et puis je peux pas le faire parce que j'ai pas le droit de le faire ». Et puis le libéral dira « ah, à moi la belle vie parce que je peux y aller ». Et vous verrez que les deux, ça se rejoint, hein. Ils sont malheureux tous les deux, hein. Et avec des effondrements dans des abîmes. souffrir le plus possible, on a parlé du stoïcisme, pour être heureux, ou jouir le plus possible pour la même raison. Et on développe dans notre société, à travers les médias, à travers toutes sortes de choses, finalement plutôt la tendance libérale aujourd'hui, hein, pour contrer les excès de l'autre. Parce qu'on a passé quand même des siècles et des siècles, je pense particulièrement à la morale du 19e siècle, même celle du 20e siècle, on a tellement étranglé les gens que le jour où ils ont eu la liberté, ils se sont dit maintenant basta, hein, tout le monde s'en va et on fait ce qu'on veut. Hein. Il est interdit d'interdire, d'accord? Vous vous souvenez de 68, oui? Vous n'étiez peut-être pas né, hein. C'est pour certains quand même. La question qui vient maintenant, c'est est-ce que nous nous connaissons vraiment? Alors on va prendre le miroir de Jacques. Vous connaissez le miroir de Jacques? Ben, vous connaissez naturellement. Et Jacques nous dit dans l'épître ceci, comme un homme regarde un miroir ou dans un miroir son visage naturel. Comme un homme regarde son visage naturel dans un miroir. Je suppose que les uns des autres, personne n'a fait l'exception ce matin, vous êtes au moins regardé une fois dans la glace. Mesdames, plus d'une fois. Enfin, je voudrais ça, c'est entre nous, mais vous ne direz pas. Hein. Moi, ma femme me dit souvent, t'es mal peigné. Voilà. Ça en va dans tous les sens. Faut dire que c'était la semaine dernière, c'était le 14 juillet. Alors bon, ça vole un peu, hein. Ça fait un petit peu feu d'artifice. Ça va là ce matin, c'est bon? Bon, merci, ça m'encourage. Alors, pour un perfectionniste, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut tellement bien faire. Pour un perfectionniste, écoutez bien, la valeur de la vie s'évalue au succès et à l'échec. Il est très fier quand il réussit, et il est un moins que rien pour lui-même quand il échoue. Alors moi, je voudrais vous dire que pour Dieu, un échec n'est pas forcément un échec, et un succès n'est pas forcément un succès. Parce que toutes choses sont entre les mains de Dieu. D'accord? Un perfectionniste conclut que tout est mal quand ce n'est pas parfait. C'est faux. Parce que la perfection, elle n'existe pas. Ici-bas. Excusez-moi. Il a tendance innée à la critique et au dénigrement. Parce qu'il pense que lui, ce qu'il fait, c'est bien, puisque les autres, c'est autre chose. Il se donne des exigences, et il se donne des buts impossibles à atteindre. Et quand il finit parfois par les atteindre, il devient un pharisien. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Vous savez, comme ces deux bons hommes qui rentrent dans le temple, le premier, on va pas parler du second, mais le premier qui rentre, « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dois être fier de moi? Je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela, etc., etc. » Eh bien, dis donc, hein, j'ai bien droit à la première place, hein, à la fois dans l'église et dans le paradis. Hein. Le perfectionniste recherche et il exige de lui-même, souvent il est implacable par rapport à lui-même, mais aussi des autres, il exige l'impeccabilité. Hein. Attention, hein, la cravate, elle doit bien être là. Hein. Mais mesdames, vous pouvez pas comprendre, vous en portez pas. Le perfectionniste... c'est le toujours plus. Quand on a atteint une dimension, on va encore plus loin. Vous savez, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il faut se surpasser. Oui. Toujours le toujours plus. C'est l'excellence. C'est la maximalisation du bien. Au porté, au plus haut point. Pour le perfectionniste, c'est l'absence du plaisir parce que tout est devoir. Je dois. Il n'y a pas autre chose. Je dois, c'est un devoir. Parfois, il doute néanmoins dans l'action, parce que pour lui, rien n'est simple, tout doit être compliqué. Bah, écoutez, hein, franchement, c'est quand même mieux de vivre quand les choses sont simples, non? Je ne sais pas. Mais il y a des gens, par une tournure de cérébrale, qui sont toujours en train de chercher là où il n'y a pas à chercher, midi à... Eh ben, vous connaissez, c'est formidable. Je vais m'arrêter, vous connaissez tout. Rien n'est simple, faut tout compliquer. Le perfectionniste a de l'intolérance sur la faute ou la faute à la faute des autres, des erreurs. Ça, c'est terrible. Il refuse d'être aidé parce que il sera perçu, s'il demande de l'aide ou du secours, il sera perçu comme un signe de faiblesse et il ne veut pas paraître faible. Et pourtant, Paul dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Ben, il faut bien arriver à comprendre qu'on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, hein. Et puis le perfectionniste a aussi des peurs obsessionnelles de mal faire. Il est traumatisé par le mal. Et il dramatise les conséquences en disant « si je n'ai pas fait ça !» Dans la scrupulosité, avec un sens de méticulosité, alors à ce moment-là, il va m'arriver quelque chose sur la tête. C'est terrible, c'est la fin du monde. Et puis, on le voit, il se débat, parce qu'il fait des tentatives désespérées de s'améliorer lui-même. Or, vous savez comment ça se passe, la sanctification. La fausse sanctification, c'est quand on s'auto-sanctifie nous-mêmes. Ça, c'est la fausse. Mais il veut faire les choses à la place de Dieu, alors il se cadre dans une discipline rigide, dans une règle et dans un cadre auquel il ne veut pas déroger. Hein. Moi, il est 8h10, le matin, je dois prier. Même si vous êtes à votre bureau, vous mettez à genoux et vous commencez à prier, parce que c'est l'heure. Comprenez? Ben, vous allez voir votre patron comment il va vous relever. Hein. Non, mais écoutez, la liberté, mais ça rend les gens malheureux. Parce que vous dites, j'ai manqué à quelque chose. C'est le dictat de la performance. Et vous savez, faisons attention dans nos églises, hein, parce qu'on est en train de développer cette conception de la performance. Vous savez, c'est le Seigneur hein, qui fait les choses, c'est pas nous. Hein. Et de se concurrencer entre une église ou une autre, entre un pasteur et un autre, entre un chrétien ou un autre. Mais c'est pas la performance, c'est pas la course. La bonne course, oui, on sait, mais pas celle-ci. Hein. C'est-à-dire d'être le premier et le meilleur. D'où les insatisfactions permanentes et les déceptions, naturellement, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. C'est la volonté sans concession d'observer strictement certains préceptes et règles qui captivent dans une forme de sectarisme, voilà, de frustration, et ça finit par une grande culpabilité parce qu'on n'y arrivera jamais. Parce que la loi n'a jamais amené à la perfection, d'accord ? Alors, ne sois pas juste à l'excès, de peur que tu ne te détruises, que tu ne te ruines toi-même, parce que le Seigneur t'a pas appelé à la ruine et à te détruire. Il t'a appelé à regarder à Jésus et à compter sur Jésus, tout simplement, et t'abandonner dans le repos de la foi. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet assez étonnant. Vous allez dire, comme dans l'Évangile, nous avons entendu des choses étonnante aujourd'hui. Mais écoutez, parce que je prends une image maintenant. Il y a une étrange histoire que si on vous la racontait, vous ne la croiriez pas. Nous, nous la croyons parce que nous sommes chrétiens. Mais il y a beaucoup de gens, des millions et des millions de gens qui ne la comprennent pas. C'est le phénomène de la résurrection. Et j'en arrive à un texte particulier. Il s'agit d'une histoire d'un captif qui est libéré. Il est captif à plusieurs égards. Alors vous allez ouvrir, s'il vous plaît, votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 40. Et nous allons parler de cet homme captif, mais libéré par Jésus, délivré par Jésus. Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare. Et il va se passer quelque chose à ce moment-là. Jésus s'adresse à Marthe. Oui, c'est encore elle, dans ce texte. Et Jésus lui dit, au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre qui était devant le tombeau. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Écoutez bien la suite. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Mais écoutez, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous avez saisi le rapport et le rapprochement qu'il y a entre les deux? Je relis. Observons bien ceci. Lazare sortit les pieds et les mains liés de bandes. Jésus dit à tous ceux qui étaient autour, déliez-le et laissez-le aller. Permettez-moi de dire ce matin, voici les bandelettes de la captivité. Je répète, les bandelettes de la captivité. La captivité des habitudes, la captivité des liens, la captivité de nos obsessions, la captivité de nos pensées, la captivité de notre autoculpabilité, la captivité que l'on pourrait résumer autour des deux mots que nous sommes en train d'étudier, légalisme et perfectionnisme, qui empoisonne la vie des enfants de Dieu, pieds et mains, bouche pour louer le Seigneur et pour le prier, bouche pour rendre témoignage autour de nous, autour de soi. Les bandelettes de la captivité qui fait que ces bandelettes ont tellement enlacé nos cœurs et nos âmes, nos pensées, notre volonté, notre esprit. Et pourtant, il y a un mot d'ordre du Maître, il y a un mot d'ordre de Jésus qui dit « déliez-le et laissez-le aller ». Ce matin, je voudrais vous dire en toute modestie que le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter ce message pour que vous y réfléchissiez. Parce que l'ordre que j'ai reçu du Seigneur, c'est qu'à travers sa parole, pas à travers moi, mais à travers sa parole, vous puissiez être déliés et que vous puissiez aller. Que vous puissiez être libérés, frères et sœurs. Et je sais qu'il y a certainement pas mal de pasteurs qui pensent ce que je crois, et ce que je vois, et ce que j'observe, pour que l'Église soit libérée, pour que l'Église soit heureuse, pour rendre les gens aussi autour de nous heureux. Je l'ai souvent dit et je l'ai souvent démontré. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous avons un air tellement d'affliction et d'écrasement, comment voulez-vous gagner des gens autour de vous? Ils vous diront, mais pas l'Église, non, certainement pas. Si c'est pour être... Parce que vous savez, les gens à l'extérieur, ils s'amusent. Hein. Ça vous plaît peut-être pas qu'ils s'amusent. Il y a des plaisirs sains aussi. Hein. Mais il y a des plaisirs aussi malsains. C'est pas moi de juger. Mais toujours est-il que quelque part, nous, je pense que le chrétien doit pouvoir, non pas s'amuser, mais manifester un épanouissement et une liberté qui donne envie. Vous êtes le sel de la terre, alors donnez soif. Hein. Et le sel, ça donne soif. Hein. Allez-y, ce midi, quand vous allez rentrer, vous prenez un verre d'eau avec plein de sel dedans. Vous allez voir toute l'après-midi. Vous allez avoir soif. Hein. Alors, Lazare, certes, est ressuscité. On est d'accord dans le texte. Mais il est encore embarrassé de ces bandelettes qui l'entravent. C'était un croyant qui est mort. Ouais. Et puis, Jésus vient, il ressuscite. Et quand il est ressuscité, il est encore avec ses bandelettes. Et Jésus dit maintenant, c'est plus la peine les bandelettes. Vous êtes libre, tu es libre Lazare. Il y a un rapprochement à faire et vous me l'accorderez si vous voulez bien. Hélas, il y a beaucoup trop de chrétiens nés de nouveau. Je dis bien nés de nouveau, j'insiste, qui sont à la ressemblance de Lazare, qui demeure ligoté de beaucoup de choses, ou alors de beaucoup de choses, ou de peu de choses qui n'ont pas d'importance, et dont nous donnons une grande importance. C'est là où il faut faire le tri. Jusqu'à l'asphyxie morale et spirituelle, dans leur bonne conscience, d'obéir et de servir Dieu, et je vous salue dans ce que vous faites pour le Seigneur, et je n'irai pas dire le contraire, parce que vous aimez le Seigneur et vous cherchez à lui plaire. Mais dans cette obéissance et dans ce service, eh bien, il y en a tant de frères et de sœurs qui suffoquent dans leur dévotion, dans leur pitié, dans leur foi retenue par toutes sortes d'exigences qui s'imposent du genre des abstinences, des obligations, des préceptes, etc., que la parole de Dieu nomme des œuvres mortes, selon le livre des Hébreux. Des œuvres mortes, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à nous occuper et à nous torturer. C'est beau de vivre dans la grâce et dans la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu. En tous les cas, avec mon ministère, vous aurez entendu parler de la grâce. Hein ? Ouais. Et moi, je pense que l'Église de demain, si elle veut survivre à toutes les tempêtes, elle a besoin de s'ancrer dans la grâce de Dieu. Hein ? Parce que celui qui vient, pas celui qui revient, nous l'attendons, mais celui qui vient, le régime qu'il mettra sur la terre mondialement, ça sera un régime de loi. Hein ? Alors, faut prendre le bon créneau, frères et sœurs. Parce que là, on risque de le suivre en pensant que les lois qui va le promulguer, là, en premier temps, elles sont bien, elles viennent de Dieu. Faut pas vous tromper, hein. On est des chrétiens et on vit dans la grâce. Et c'est la source du bonheur. Œuvre morte, nous dit la parole de Dieu. C'est marqué dessus. C'est estampillé, œuvre morte. Cet état provient d'une compréhension faussée de l'évangile de la grâce et du salut par la foi. Et c'est comme ça que des doctrines pernicieuses ont mis à la place du salut par la foi le salut par les bonnes œuvres. Hé, ça coule de source. Prenons garde. Quoique ressuscité en Christ, je parle pour nous, que nous soyons retenus dans une demi-vie. Bien sûr que vous n'êtes pas perdus, mais je le sais. Bien sûr que vous avez une vie de prière, une vie de communion avec le Seigneur, que vous lisez la parole, etc., etc. Mais ce n'est pas une demi-vie que vous avez été appelé, c'est une vie de plénitude en Jésus. Et ça, ça change tout. Une pleine vie. Parce qu'on s'aperçoit que Lazare, il avait les pieds et les mains liés de bandes. Et faisons attention de ne pas être renvoyé en arrière, comme l'apôtre Paul, qui lui était ressuscité en Christ, et qui lui était un judaïste, qui lui avait tellement de connu les rigueurs de la loi mosaïque, que dans le livre des Galates, il écrira ceci, au chapitre 5 et au verset 7, il dira ceci, « Vous couriez bien. » Je voulais simplement vous dire, frères et sœurs, quand vous êtes convertis par la loi ou par la grâce? Par le message de la prédication de la grâce ou le message de la prédication de la loi? C'est dans la grâce. Alors, Paul constate avec les Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et la vérité, c'est la grâce. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile, ou c'est ce que nous dit Jean, présentant Jésus dans le prologue de l'évangile de Jean. Il dira, mais la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Ça, ce sont des paroles extraordinaires, formidables. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, parce que celui qui vous appelle, il vous appelle à la liberté et non pas à la restriction, et non pas à l'emprisonnement et à la captivité. Jésus précise le but, laissez-le aller, en parlant de Lazare, c'est-à-dire laissez-le vivre pleinement, librement et d'une manière épanouie. Ça vous donne pas envie d'aller un peu plus loin, frères et sœurs? C'est extraordinaire, je pense. Moi, pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je serais le seul à trouver que c'est extraordinaire. Alors, ne me laissez pas seul, parce que là, vraiment, hein, je désespère. N'oublions jamais, je finis, comme pour Lazare, l'adversaire fera tout et tentera tout pour nous faire mourir. Pas mourir comme on le pense, mais mourir spirituellement. Pour éteindre, neutraliser, paralyser la plénitude de notre vie spirituelle selon l'exemple suivant que nous avons toujours dans l'évangile de Jean, parce que vous avez remarqué que Jésus a ressuscité Lazare, qu'il a donné l'ordre de le délier de ses bandelettes, mais qu'un peu plus loin, si vous regardez, vous avez toujours votre Bible ouverte, au chapitre 11 et au verset 53, il nous est dit que les adversaires sont venus, et il nous est dit, dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Lazare tout à nouveau. Ah, dis donc, c'est des allers-retours, hein. Je meurs, je revis, et je retourne d'où je viens. Les pharisiens avaient décidé, dès ce jour, devant le miracle de Jésus, après la résurrection, de faire mourir tout à nouveau, Lazare. Eh bien, nous sommes nés de nouveau, et le diable a résolu de nous faire mourir tout à nouveau. C'est un défi qui est sur notre tête. Tout simplement. Et de maintenir notre visage enveloppé d'un linge. C'est-à-dire de ne pas voir la dimension spirituelle et de ne pas comprendre la dimension spirituelle. Alors il faut ôter le linge, parce que ça c'est le linge d'un mort et nous, nous sommes vivants. Réagissons et ne laissons pas faire. Ne nous laissons pas faire. Galates chapitre 5, verset 1er, quand il est dit, et je termine sur cette pensée, enfin c'est pas grave, je l'ai en tête, c'est pas grave, quand il est dit ceci, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas tout à nouveau mettre sous un joug de servitude. C'est pour la liberté, frères et sœurs, que Dieu nous a appelés. Servitude et carcan impossible du perfectionnisme. Alors, en conclusion, le conseil de Jésus à Marthe, qui veut si bien faire, qui veut faire tout parfaitement, Marthe. Elle est super, Marthe. Ouais, elle est super. Mais Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est une parole de grâce qui met l'enfant de Dieu, qui met le croyant ou le chrétien dans ce que l'on appelle, ce que j'appellerais moi, le royaume du repos de la foi. Le repos de la foi, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'accord ? Je cite des versets bibliques, hein ? D'accord ? Ça, c'est important. Oui. Marthe, une seule chose est nécessaire. La parole de la grâce libératrice. Parce qu'il y a un prophète de l'ancienne alliance qui déjà certainement vivait dans la loi, mais qui avait perçu par l'Esprit de Dieu qui était en lui la grâce souveraine de Dieu. C'est le prophète Jérémie. Et il écrira au chapitre 46, verset 11, je cite, « Il est dit ceci, et vous êtes invités à le faire, frères et sœurs, monte à Galade. » Ça veut dire « approche-toi, hein. » « Prends du baume, car en vain tu multiplies les remèdes. » Mes frères et sœurs, arrêtez avec les remèdes, avec les emplâtres, avec les pansements, qui essaient de calmer vos imperfections, qui essaient de tranquilliser votre conscience, parce que la loi, elle nous donne une apparence de sécurité, mais c'est faux. Ce n'est pas le repos de la foi. Oui, arrête avec de prendre des remèdes. Car ailleurs, Dieu assure, dans le psaume 8 et verset 7, « J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. » Qu'est-ce qu'il y a dans notre corbeille qui nous écrase? Vous savez, dans l'Antiquité, ils portaient les corbeilles sur leur tête, ça existe encore. Mais, oups, ça nous fait renfoncer en nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre corbeille? « J'ai déchargé son épaule du fardeau. » Ça, c'est la foi dans la crucifixion que Jésus a accomplie pour nous. « Et ses mains ont lâché la corbeille. » C'est-à-dire que j'ai déposé mes fardeaux. Tu as crié à moi dans la détresse et je t'ai délivré. Frères et sœurs, il y a suffisamment de frères et de sœurs qui souffrent même dans cette église. Et je ne suis pas inconscient de cela. Et nous prions tous les jours pour vous. Mais de grâce, le Seigneur vous a dit qu'il avait entendu vos prières et qu'il va vous faire rentrer dans une nouvelle dimension, ce qui sera pour vous la bonne part. Comme Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutez la parole, non pas la lettre, mais dans l'esprit. Parce que cette parole, elle est pour vous, car, nous dit Jésus, mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, et je vous en remercie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que il y a tant d'accablement. Tant d'écrasement, tant de piétinement, Seigneur, dans le monde. Et nous savons, Seigneur, que celui qui a fait cela, eh bien, c'est un adversaire. C'est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes qui a commencé par mettre en doute la première humanité. Dieu aurait-il réellement dit que nous serions heureux, que nous serions libérés, que nous serions des hommes libres et affranchis? Alors, nous croyons que c'est une parole de mensonge, ce que cet adversaire a donné au monde. Et nous fonctionnons même en tant que chrétiens encore avec ces résidus, en effet, au fond de notre cœur ou dans notre pensée, de cette culpabilité et de cette peur de Dieu d'être jugé, condamné, exclu du salut. Seigneur, tu as donné Jésus. Et nous affirmons que ce matin, eh bien, Jésus nous a été donné et nous gardons Jésus comme notre sauveur. Et nous lui donnons la première place. Je te demande maintenant, Seigneur, de passer dans les rangs, de passer au milieu de nous, tu vois. Qu'il y a des frères et des sœurs qui se débattent avec l'anxiété, l'angoisse, avec l'inquiétude, avec le souci, le tracas, les tourments, Seigneur, la dépression, toutes sortes de choses. Mais Seigneur, je veux te dire, eh bien, moi je me lève et je choisis véritablement, Seigneur, de m'approcher de toi pour que tu enlèves toutes ces bandelettes. Que tu enlèves le voile, Seigneur, de mon visage et que je puisse voir, que je puisse réaliser, Seigneur, que tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et par l'effet, Seigneur, sanctifiant de ta parole, tu passes maintenant, Seigneur, au milieu de nous, au plus profond de notre intimité. Et tu nous dis, Seigneur, eh bien que si véritablement nous le voulons, nous le désirons, nous avons choisi la bonne part, qui ne nous sera jamais ôtée parce que ton joug est doux et ton fardeau léger. Merci, Seigneur, pour le bonheur de te connaître et gloire à Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.